Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, nous allons parler de la réduction de l'espace démocratique. Effectivement, cette semaine, nous avons entrepris une série sur l'effet neutralisant de la propagande sur la société civile. En d'autres mots, nous allons voir comment nous sommes empêchés d'avoir un impact dans la société. Cette série est inspirée d'un ouvrage écrit par Noam Chomsky et de Robert McChenney intitulé « Propagande, médias et démocratie ». Le contenu de cette émission nous aidera à comprendre le phénomène de réduction de l'espace démocratique. Effectivement, la démocratie active est une menace au contrôle étatique. C'est ce que nous rapporte M. Chomsky. Voici ce qu'il ajoute. C'est là le danger de la démocratie. Si des organisations ont l'occasion de se développer, si les gens ne restent plus le nez collé sur le petit écran, toutes sortes de pensées étranges vont venir dans leur esprit. C'est ce qu'on voit à la page 52. À quelle sorte de pensées fait-il référence? Laissez-moi vous donner un exemple. Si, par exemple, le gouvernement libéral de l'époque avait dit en 2003, « Au lieu de permettre aux conjoints de même sexe de se marier et d'adopter des enfants, l'État va offrir des ressources pour solidifier les couples. Nous allons mettre à leur disposition des conseillers, des thérapies, des ouvrages, etc. Des déductions fiscales sont même envisagées pour nous assurer que le programme sert au profit des couples. Nous en faisons notre priorité. » Imaginez si on avait entendu ce discours. Réalisez-vous quel impact ça aurait eu? Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce que trop peu le revendiquent. Est-ce que ce serait une bonne chose? Effectivement, ce serait une chose merveilleuse parce qu'il y a toujours, encore aujourd'hui, il y a toujours trop de couples qui se séparent. Est-ce qu'on peut empêcher ça? Non. Mais c'est malheureux. Et il y a des victimes là-dedans. Il y a des gens qui en payent le prix. Évidemment, le conjoint ou la conjointe qui, elle, veut persévérer dans la relation ou lui qui veut persévérer dans la relation, les enfants, effectivement, des amis, il y a tout un réseau qui est déstabilisé. Si on regarde, par exemple, les données de décembre 2015, c'est tout frais, là. Si on va sur le site de Statistique Québec, eh bien, le nombre de mariages de conjoints de sexe opposé s'établit à 21 832 en 2014, une diminution d'environ 750 par rapport à 2013, qui est établi à 22 589. Parmi les 21 832 mariages de conjoints de sexe opposé célébrés en 2014, près de 67% unissent deux époux n'ayant jamais été mariés légalement. Il y a donc remariage pour au moins l'un des deux conjoints dans un mariage sur trois. Donc, dans un mariage sur trois, il y a au moins un des deux conjoints qui a été divorcé ou qui se remarie. Maintenant, si on va sur la page de Statistique Canada, là, on était sur Statistique Québec. Si on va sur celle de Statistique Canada, eh bien, les divorces par province et par territoire. En 2005, on comptait au Québec, selon Statistique Canada, 15 423 divorces. 15 423 divorces. Ça, c'est au Québec. Et donc, combien sur ces 15 000 quelques divorces seraient réunifiables si les couples avaient eu l'aide nécessaire? Combien auraient pu persévérer dans leur union si justement il y avait des gens qui avaient été là pour les aider, qui avaient été là pour les conseiller, qui avaient été là pour les écouter, pour donner conseil, pour justement contribuer à favoriser un renouveau dans ce couple, pour réallumer la chandelle, réallumer la flamme? Eh bien, ce rêve ne peut venir que si un groupe acharné se lève et réclame des changements dans cette direction-là. Le problème est qu'on vit dans une démocratie qui ne favorise pas ce genre d'initiative. Effectivement, il y a des initiatives à petite échelle qui se font. Moi, je sais que dans la communauté dans laquelle je vis, il y a un couple qui est consacré justement aux couples, qui se consacre pour aider, pour, si on veut, encadrer, coacher, donner des soins aux couples et même préparer les jeunes couples au mariage. Ce sont des gens extrêmement dédiés qui ont le cœur sur la main et qui forment un couple, un beau couple, et qui veulent voir des couples être solidifiés. Mais maintenant, imaginez ça à l'échelle nationale. Je sais que dans beaucoup de communautés, et peut-être parmi les auditeurs, il y a justement des gens qui pourraient lever la main et dire « Écoutez, chez nous aussi, dans notre communauté, on retrouve ce genre d'aide-là, ce genre de soutien. » Mais ce n'est pas nécessairement, malheureusement, ce n'est pas nécessairement tous les couples qui en bénéficient. Maintenant, ce que je vous dis, c'est simplement un exemple pour démontrer qu'il y a des possibilités, mais il n'y a pas nécessairement des volontés. Et pour faire bouger un gouvernement, il faut être vraiment bien organisé et il faut vraiment être bien déterminé. Et ça, ce n'est pas simplement parce que c'est comme ça. C'est voulu que ça soit ainsi. Et c'est ça que Noam Chomsky et M. McChaney essayent de nous faire comprendre. Et effectivement, notre démocratie favorise plutôt la fabrication du consentement. Pourquoi? Pour l'anéantissement. Oui, mesdames et messieurs. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Wow, à la page 56, c'est quand même quelque chose de gros. » Voici ce qu'on nous dit à cet effet. Voici ce que nous dit Chomsky à cet effet. Le scénario est toujours le même. D'abord, une offensive idéologique destinée à fabriquer un monstre chimérique et ensuite le lancement d'une campagne pour l'anéantir. Je vais vous donner un exemple de ça. Vous savez que depuis, je dirais, les 10 dernières années, bien, surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001, mais au Québec, ça s'est amplifié depuis les 10 dernières années. On a beaucoup ciblé les musulmans comme étant une menace. Et parce qu'on les a associés aux attentats terroristes. Et ce que ça a produit, c'est qu'on a voulu les forcer à vivre comme nous. Au début, avant les attentats terroristes, ils nous dérangeaient un peu. Et depuis les attentats terroristes, ils ont commencé à être ciblés comme étant une menace. Eh bien, l'idéologie derrière ça est simple. On veut amalgamer l'islam au terrorisme. Pour quelle raison, vous pensez? Eh bien, pour orienter notre focus sur la menace terroriste et pointer des boucs émissaires. Vous allez dire, oui, mais écoute, Eric, tu sais très bien qu'Al-Qaïda, puis l'État islamique, Daesh, tout ça, ce sont des musulmans qui sont derrière ça. Oui, ce sont des terroristes qui sont derrière ça, et ce sont des terroristes qui s'identifient à l'islam. Comme il y a des extrémistes dans toutes les religions, il y a des extrémistes même, malheureusement, parmi les chrétiens. Mais je vais vous démontrer comme quoi notre focus est influencé par la propagande. D'accord? Parce que les musulmans, en tant que tels, ne sont pas nos ennemis, ils sont nos prochains, ils font partie de notre nation. Ce qu'il faut combattre, là, c'est pas ceux qui prient 5 fois par jour en direction de la Mecque, ce sont ceux qui complotent de menacer notre sécurité. Moi, je fais la distinction. Je fais la distinction, mesdames et messieurs. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez sur le site shootingtracker.com, d'accord? Shootingtracker.com, en 2015, parce qu'on a entendu souvent parler de fusillades aux États-Unis en 2015. Combien qu'il y en a eu en 2015? 353. OK? Maintenant, à travers le monde, là, je vous dis aux États-Unis, là, il y a eu des fusillades de masse, là. Il y en a eu 353, c'est presque une par jour, dans un pays, les États-Unis. Maintenant, je vais vous parler sur la planète entière. Eh bien, combien vous pensez sur la planète entière à travers le monde, il y a eu d'attentats terroristes associés à l'islam radical? 33. À travers le monde. Une de ces 33-là a eu lieu aux États-Unis, à Saint-Bernardino, le 2 décembre dernier. Une sur 33 était d'allégeance islamique. Un attentat sur 33 était d'allégeance islamique. 353 tueries de masse. Est-ce que c'était toutes des islamistes? Non. Et donc, juste pour vous démontrer la proportion entre les fusillades, les tueries de masse et les attentats, il y a une proportion il y a un grand décalage entre les deux. Il y a une disproportion. Donc, il faut faire attention. Je veux dire, on a beaucoup, beaucoup plus à craindre des fusillades, des gens armés qui vont tirer dans des écoles, dans des centres d'achat, dans des cinémas. On a beaucoup plus à craindre aux États-Unis de ça que d'un attentat terroriste perpétré par des islamiques radicaux. Et c'est pour ça que je vous dis pas que tous les islamiques sont des saints et qui sont pas associés à des cellules radicales. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut faire la nuance entre quelqu'un qui prie 5 fois par jour, qui est paisible, qui va travailler, qui mène une bonne vie, et un terroriste. Ce qu'il faut attaquer, c'est le terrorisme. Mais maintenant, dans ce qu'on entend, justement qu'il y a une vague de terrorisme. Effectivement, on en a eu 33 à travers le monde cette année, c'est beaucoup. Mais comparativement à 353 fusillades de masse aux États-Unis, il y a un grand écart. Et dans tout ça, là, la plupart des tueries aux États-Unis ont été perpétrées par des non-islamiques. Et donc, les médias ont un rôle à jouer important. Ils ont joué un rôle dans la gestion de l'information. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse voir aussi la deuxième partie du livre qui est écrite par Robert W. McChenney. Et ça met fin à cette première partie du livre qui a été écrite par M. Chomsky. Et donc, considérant que les médias ont un rôle à jouer dans la gestion de l'information, M. McChenney, lui, va nous parler dans son livre, dans cette deuxième partie du livre, pardon, il va nous parler des géants des médias qui sont une menace pour la démocratie. Et on va voir rapidement 3 éléments qui sont essentiels pour dynamiser une démocratie. Premièrement, la démocratie est une organisation politique autonome dans laquelle l'ensemble des citoyens exercent la souveraineté. Pour bien fonctionner, ce régime doit répondre à 3 critères essentiels. Et on voit ça aux pages 81 et 82. Premièrement, il importe que la société ne présente pas de disparités marquées dans la répartition de la richesse et de la propriété, car celles-ci affaiblissent la capacité des citoyens d'agir à pied d'égalité. Et donc, c'est pour ça que c'est un discours qui revient souvent et qui est souvent revendiqué, c'est la redistribution de la richesse. Deuxièmement, il importe que les citoyens ressentent un sentiment d'appartenance à leur communauté et soient conscients que le bien-être de chacun dépend étroitement du bien-être de tous. Et le problème, c'est qu'avec la mondialisation, on tend, mesdames et messieurs, à uniformiser les différences culturelles. Il y a plein d'endroits où est-ce qu'on recherche des bénévoles. Et donc, il y a moyen de s'impliquer dans la société civile. Mais c'est de plus en plus complexe et on est de plus en plus loin du pouvoir parce qu'on a des sociétés complexes à gérer. Et pourquoi vous pensez que les régions adhèrent plus aisément à des valeurs traditionnelles? Parce que la famille est une valeur plus grande que dans les grands centres et parce qu'ils sont beaucoup plus proches, beaucoup plus près du pouvoir décisionnel. Ils connaissent plus de gens, ils connaissent de manière plus intime les gens. Moi, j'ai vécu en région, j'ai vécu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je peux vous dire que, par exemple, si je disais, bon, ben, moi, je vais à telle église, ah oui, c'est l'église du fils du vendeur à glace, en faisant référence à un monsieur Tremblay. Et donc, les gens, l'information circule, les gens se connaissent, ça a des avantages, ça a certains inconvénients, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et c'est beaucoup plus facile, par exemple, faire bouger les choses dans des plus petits centres. Le troisième point, c'est la démocratie, selon McChenney, requiert l'existence d'un système de communication efficace aux ramifications étendues qui informe et mobilise l'ensemble des citoyens et les amène à participer réellement à la vie politique. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est un cynisme par rapport à la vie politique. Et on va en parler davantage lors de notre prochaine capsule demain. Mais ce qui est important et ce que ça nous montre, c'est que les voix médiatiques parlent presque tous dans le même sens. Et c'est ça qui est dramatique parce que la majorité des voix médiatiques sont des voix qui sont régies par des entreprises privées. Mais malheureusement, ils parlent tous dans le même sens. Pourtant, on pourrait se dire, oui, mais il y a de la compétition. On pourrait, par exemple, en avoir qui sont un peu plus à gauche, d'autres un peu plus à droite et d'autres qui vont se distinguer au centre par telle option. Mais c'est sensiblement, à quelques nuances près, le même discours. Et c'est pourquoi c'est important d'appuyer des radios alternatives, par exemple comme le 92.7 FM, qui diffuse une musique différente, qui diffuse justement des propos vocaux différents et diversifiés. Et ça, c'est important. C'est important d'appuyer parce que ça nous amène en tant que société, ça nous amène en tant que citoyens à réfléchir et à discuter sous d'autres angles. Et je vois le temps filer, c'est déjà le temps de clore cette émission. Alors, on va poursuivre cette série demain. Si vous, vous désirez poursuivre la discussion, vous pouvez le faire en dehors des ondes. Je vous invite donc à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@ericlantier.net, leblogueur@ericlantier.net. Je vous invite aussi à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est aussi disponible sur le www.ericlantier.net, c'est le www.ericlantier.net. Merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Alors, je vous dis donc, chers auditeurs, à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur @ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!